France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Qu'est-ce que les Lumières ? C'est notre série de cette semaine. Voici un nouvel épisode consacré aux Lumières face à l'idée coloniale. Au XVIIIe siècle, dit « siècle des Lumières », les États européens ont constitué ce qui est souvent dénommé leur premier empire colonial. La France, depuis la découverte du Nouveau Monde, détient, jusqu'à la guerre de 7 ans qui débute en 1756, des territoires nord-américains, des îles des Antilles, les Mascareignes dans l'océan Indien, archipel composé notamment de la Réunion et de l'île Maurice, et des établissements en Inde et en Afrique. À l'issue de cette guerre de 7 ans, l'empire colonial anglais s'étend, tandis que celui de la France est diminué. Il reste pris cependant dans une intense activité commerciale, source de richesses, d'autant plus qu'y prévaut l'esclavage, autorisé officiellement par le roi de France depuis 1642. En 1685, Louis XIV a édicté le Code noir qui réglemente la vie des esclaves dans les colonies françaises. Ceux-ci sont des biens meubles, faisant l'objet d'un commerce comme de pures marchandises. À beaucoup d'égards, les penseurs des Lumières en France ont été des dénonciateurs de cette situation. Dans un article intitulé « Traite des nègres », écrit par Louis de Jaucourt, paru dans l'Encyclopédie en 1766, la traite des Noirs est fermement critiquée. L'abbé Raynal a publié en plusieurs éditions différentes dans les années 1770 une histoire des deux Indes tenue longtemps pour un manifeste anticolonial. Voltaire, Condorcet, Olympe de Gouges préparent par leurs écrits qui peignent l'horreur de l'esclavage, l'apparition des premières sociétés abolitionnistes. Cependant, depuis quelques décennies, nombre de travaux dénoncent l'hypocrisie de cet universalisme qui, en réalité, est empreint d'européocentrisme et de refus d'une mise en cause profonde de la logique coloniale. Les Lumières et l'idée coloniale, c'est le thème de cette émission. Bonjour Thierry Hoquet.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de philosophie des sciences. Vous êtes aussi directeur depuis 2024 de la revue Critique et en 2025, l'an dernier donc, vous avez fait paraître aux presses universitaires de France « Histoire décoloniale », « dé » étant mis entre parenthèses, de la philosophie française, de la Renaissance à nos jours. Et bonjour Antoine Lilti.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur au Collège de France, spécialiste de l'époque des Lumières et auteur tout récemment d'un ouvrage intitulé « L'illusion d'un monde commun, Tahiti et la découverte de l'Europe » où vous enquêtez et réfléchissez au texte de Diderot écrit en 1772 qui revient, ce texte, sur le voyage autour du monde de Louis-Antoine de Bougainville et nous allons parler de votre analyse. Vous avez aussi écrit un chapitre dans votre livre de 2019, publié chez Gallimard. Ce livre s'appelait « L'héritage des Lumières, ambivalence de la modernité », un chapitre qui s'intitulait « Le défi postcolonial ». Alors justement, je pense qu'on va commencer par là pour poser tout de suite les termes du débat. Antoine Lilti, dans ce chapitre que je viens d'évoquer, vous expliquez combien depuis 1978... surtout avec la publication par Édouard Saïd de ce livre qui s'appelle « L'orientalisme », qui a vraiment marqué les chercheurs. On regarde les Lumières un peu autrement, et en particulier les représentations qui étaient faites des colonisés, malgré parfois un discours avec une volonté d'émancipation. Néanmoins, vous écrivez, je crois que c'est intéressant, parce que c'est vraiment au cœur du sujet, qu'il faut faire attention. Dans le souci de défendre les Lumières injustement attaquées ou caricaturées, la réplique elle-même simplifie les enjeux. Et le risque est d'avoir une simplification des enjeux des deux côtés. Vous dites encore, les Lumières anticoloniales opposées à des Lumières impérialistes, alors que cette alternative, je vous cite toujours, « projection trop directe de nos propres clivages idéologiques, permet rarement de saisir ce qui se joue dans les textes de l'époque. » Et vous préférez parler d'ambivalence des Lumières. Alors, je vous laisse commenter ce propos parce que je pense qu'on ne pourra pas discuter si on ne met pas tout de suite sur la table la subtilité de votre propos.
Oui, alors merci. Je pense que vous avez bien résumé les choses. C'est-à-dire qu'on a, au fond, il faut, à mon avis, éviter deux lectures un peu anachroniques des Lumières et de leurs héritages. C'est-à-dire l'une qui, au fond, une lecture édifiante qui correspond à la vision presque scolaire qu'on a eue des Lumières, qui serait du côté de l'universalisme, de la générosité. On a comme ça quelques textes de l'émancipation et de l'émancipation universaliste et qui aboutirait à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à toutes les formes d'abolitionnisme. Et de l'autre côté, parce que pour cette lecture-là, eh bien, effectivement, elle a été mise en crise, d'une certaine manière, par toute une série de lectures critiques qui ont montré, soit en réalité, le très peu d'intérêt qu'avaient la plupart des philosophes des Lumières pour les questions coloniales, y compris pour l'esclavage, soit le fait que, même quand ils s'y intéressaient, et même lorsqu'ils écrivaient, on va sans doute y revenir dans le détail, des textes émancipateurs, en fait, ceux-ci sont beaucoup plus ambigus, contradictoires, difficiles à interpréter, et parfois même nous paraissent aujourd'hui difficilement acceptables. Il y a des textes de Voltaire, par exemple, qui sont sur les Africains, par exemple, qui sont d'un racisme difficilement soutenable. Donc, on a de ce point de vue-là, il faut remettre en cause cette lecture, mais il ne faut pas aller trop loin, parce que inversement, il y a une autre caricature des Lumières qui serait d'en faire maintenant juste l'appareil idéologique de la domination coloniale qui, là, projette au fond des représentations du colonialisme européen du 19e siècle sur le 18e siècle. Et donc, contre ces deux caricatures, eh bien, au fond, il faut revenir au texte du 18e siècle et montrer très précisément comment, au 18e siècle, cette volonté de penser, alors l'universalisme, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à la fois, c'est-à-dire au fond, l'unité de la nature, de l'humanité et l'universalité de la condition humaine et des droits humains, elle se heurte à des représentations stéréotypées, à une représentation de la supériorité de la civilisation humaine, européenne, à une croyance dans le commerce, tous ces éléments. Donc voilà, je pense qu'il faut revenir au texte du XVIIIe siècle pour essayer de ne pas les juger, ni positivement ni négativement, mais de comprendre quelles étaient les contradictions et les ambivalences avec lesquelles ces auteurs se débattaient pour penser ce qui était en fait en train d'arriver à l'Europe, c'est-à-dire au fond cette conception globale, une transformation du monde dans laquelle l'Europe ne pouvait plus se penser autrement qu'en lien avec le reste du monde.
Alors, d'un point de vue historique, donc, puisque vous avez fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789, donc en fait, là, un des problèmes, c'est que la question des esclaves n'est pas du tout posée. Et donc, c'est en septembre 1792 que la Constituante abolira l'esclavage en France, mais toujours pas vraiment dans les colonies. Et le 4 février 1794, c'est un décret adopté par Robespierre qui prononce l'abolition de l'esclavage et qui s'est enfin étendu aux colonies françaises. Les choses vont se compliquer. Le rétablissement de l'esclavage par décret sera le fait de Napoléon de Bonaparte le 20 mai 1802. Je voudrais savoir, Thierry Hoquet, si vous êtes sur la même position qu'Antoine Lilti, qui est donc que oui, il y a un problème dans les textes, même les plus généreux en apparence du XVIIIe siècle. Attention néanmoins de ne pas transformer des figures jugées longtemps trop magnifiques, pro-émancipation de tous les humains, en des figures purement et simplement colonialistes et méprisantes. Est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'il faut revenir à l'époque, saisir l'ambivalence des textes, ou bien est-ce que votre charge est plus rude contre les représentations des non-occidentaux dans les textes du XVIIIe siècle?
Je pense qu'il y a plusieurs peut-être précisions à apporter. Vous avez dit dans votre introduction que déjà vous avez parlé des empires coloniaux, en fait, français, britanniques. Je pense, moi, au XVIIIe siècle, je ne pense pas qu'il y ait d'empire colonial. au sens où il n'y a pas la politique de colonisation telle qu'elle va exister plus tard. En fait, on distingue parfois les colonies de peuplement des simples comptoirs économiques. Une grande partie de la présence française dans le monde, en tout cas en Afrique, en Asie, elle se fait sous la forme de petits comptoirs littoraux, d'enclaves littorales, en fait, qui ne sont pas une entreprise de colonisation de l'ensemble du territoire. Donc je pense que c'est important d'avoir ça en tête, au sens où des colonies de peuplement, des tentatives de colonies de peuplement, il y en a, mais justement Voltaire, par exemple, et d'autres se moqueront bien de toutes ces tentatives assez dérisoires, finalement, et dont les effets sont assez peu sensibles, palpables. Les colonies sont souvent balayées par des famines, des épidémies, etc. Ça n'empêche pas qu'il y ait bien des implantations et certaines pérennes, et puis ça n'empêche pas surtout ce fait que vous avez rappelé la question de l'esclavage, qui est en fait une question majeure du XVIIIe siècle. Sur cette question, il est évident que il y a quand même un discours philosophique qui s'emploie à la déconstruire, mais effectivement, on est obligé d'en venir à cette ambivalence, au sens où il y a un terme qui est beaucoup revenu aussi depuis le début de nos échanges, celui de stéréotypes qui sont souvent impliqués ou convoqués. Alors, qu'est-ce qu'on vise par là? En fait, il est clair que au XVIIIe siècle, on a des représentations du monde et ça s'exemplifie en particulier, on est avant la découverte de l'Océanie, on va dire, dans la représentation des quatre parties du monde. Elles sont représentées, par exemple, sur l'escalier des ambassadeurs que fait construire Louis XIV à Versailles et qui sera détruit plus tard par Louis XV. Mais on a ces présentations des quatre parties du monde qui se répondent et qui se complètent et qui représentent aussi des types humains, mais aussi des types végétaux et animaux qui sont distincts les uns des autres, alors avec effectivement des particularités, des propriétés particulières. Ça, c'est la manière dont le XVIIIe siècle voit le monde, en fait. Donc, c'est à la fois un monde qui est très ouvert sur la différence, mais où ces différences sont évidemment parfois figées et où l'Europe a une position de supériorité. Ça, c'est un peu l'a priori premier. Le deuxième point qui est sensible, c'est que cette colonisation, avant d'être un système de domination politique, c'est un système de mise en culture des terres, c'est un système dans lequel on essaye de valoriser le travail, la mise en œuvre technique, la prise en main de la nature. Ça, ça fait partie aussi, je pense, des valeurs qui sont largement partagées au XVIIIe siècle, qui ne correspondent plus du tout à notre manière de voir le monde et le rapport à la nature, mais qui font aussi partie de ces ambivalences. Enfin, le troisième point, il me semble, c'est par rapport à Saïd que vous avez cité, à Édouard Saïd que vous avez cité.
Oui.
Et cette idée de à quoi servent le savoir, la connaissance, donc les sciences, etc., la curiosité même, dans un monde qui est quand même un monde qui est régi par la politique et les pratiques de domination. Est-ce que les savants, les philosophes, etc., sont uniquement des accompagnateurs d'un système politique qui mène son train ? On peut être tenté de le penser, en fait. Et c'est, je dirais, il me semble, un des sens de cet orientalisme que dénonce Saïd avec beaucoup de justesse. C'est-à-dire, beaucoup de représentations sont des représentations qui véhiculent de la domination. En même temps, et je crois que là-dessus, on est d'accord avec Antoine Lilti, hein, c'est l'idée que on peut s'intéresser aux autres peuples autrement que pour les dominer. On peut avoir une véritable curiosité pour eux. On a envie de connaître leur langue, on a envie de découvrir leur culture, de comprendre leur système politique, de comprendre leur religion. Et que ça se traduit même souvent, ou parfois, sur une autocritique. C'est-à-dire, regarder ce qu'eux, ils font et ce que nous ne sommes même pas capables de faire. Donc, cette découverte des autres, elle va aussi avec une critique, une autocritique de la société européenne par elle-même.
Antoine Lilti.
Oui, je suis tout à fait d'accord, notamment avec ce dernier point que vient de développer Thierry Hoquet. Je voudrais juste revenir sur un point de léger désaccord, mais je pense qu'on ne peut pas dire qu'au XVIIIe siècle, il n'y a pas d'empire colonial français, ou d'empire alors encore moins d'empire colonial en général. D'abord parce qu'il y a, jusqu'à la guerre de 7 ans, il y a la Nouvelle-France, une partie entière de l'Amérique du Nord qui est sous domination coloniale et qui est pensée, qui est appelée coloniale. Et puis, il faut quand même mentionner surtout les îles des Caraïbes, et notamment Saint-Domingue, mm-hmm. hein, qui est quand même une grande île, qui est, c'est une colonie, c'est pensé comme une colonie, ce sont des plantations esclavagistes. Il y a des colons européens qui sont installés, et puis il y a les Mascareignes, et puis il y a un imaginaire impérial et colonial, parce qu'il y a ces grands empires qui sont les empires espagnols et portugais, il y a la rivalité impériale et coloniale avec l'Angleterre, et à mon avis, pour comprendre aussi ces dynamiques, il faut voir qu'elles s'inscrivent dans une réalité, en fait, qui est historique et qui est en même temps symbolique très, très puissante.
Alors, puisqu'on parle du problème des représentations du monde non occidental, et qu'en plus on voudrait éviter les anachronismes, eh bien, mettons les pieds dans le plat, évoquons par exemple un type de discours plus tardif. Et je voudrais vous demander si c'était déjà ce qui était en germe au XVIIIe siècle. Alors, nous avons choisi, avec l'équipe d'Avec Philosophie, le discours d'un homme du XXe siècle, membre de la Ligue des droits de l'homme, ministre des colonies dans plusieurs gouvernements Léon Blum en 1936-1937. Il a été pratiquement tout le temps, sauf dans un gouvernement qui a duré 2 mois. Un être généreux, républicain, qui a aussi nommé pour la première fois un gouverneur noir de la Guadeloupe, qui s'appelait Félix Éboué, qui a fait voter l'amnistie des indépendantistes vietnamiens, les ayant défendus devant les tribunaux français. Enfin voilà, et bien écoutez comment il s'exprime. Il s'appelle Marius Moutet, et il s'exprime là le 1er octobre 1937.
En instituant le 30 septembre dernier le comité d'études des coutumes indigènes en Afrique noire qui vient de tenir sa première séance de travail, j'ai voulu marquer un des plus grands principes d'action qui anime notre œuvre d'outre-mer. La connaissance nécessaire des coutumes indigènes qu'implique la colonisation comprise comme un devoir social et comme un acte de fraternelle solidarité. Si je suis heureux d'en entretenir aujourd'hui les auditeurs de Radio Cité, c'est que je considère qu'il y a là une question d'importance vitale pour l'avenir de notre Afrique et un moyen de faire évoluer les sociétés indigènes vers une conception plus moderne de civilisation. Chez le pasteur nomade de la steppe, comme chez le paysan courbé sur son champ d'arachide ou de mil, chez le chasseur de la savane comme chez l'artisan rural ou le citadin évolué, j'ai constaté le même amour ardent de l'équité, marque d'une âme fière que nous avons éveillée à la liberté et d'où nous n'emporterons la complète adhésion qu'à condition de ne pas imposer arbitrairement nos concepts juridiques en brisant sans égard aux lieux et aux milieux des mentalités qui ont leur raison d'être et des institutions qui ont leurs racines profondes.
Marius Moutet, donc, ministre des colonies en octobre 1937. C'est un exercice un peu difficile que je vous demande là, je reconnais, Antoine Litti. Mais enfin, on entend des choses dans ce discours très intéressantes. Le souci de la fraternité avec les colonisés. L'idée d'un devoir social. Et puis, on sent que la France se présente comme celle qui doit faire évoluer les indigènes vers la modernité. On entend surtout que c'est nous qui les aurions éveillés à l'esprit de liberté, à la liberté. Comment l'historien que vous êtes entend ce discours du XXe siècle, et surtout, puisque vous êtes un historien des Lumières, est-ce que vous pensez que ces représentations-là, c'est précisément au XVIIIe qu'elles sont nées ?
Ah oui, là, je crois très clairement, on est vraiment, c'est un discours tout à fait, alors, hérité d'une partie des Lumières, hein, parce que, comme on va y revenir, en réalité, il y a des discours très, très différents hein, dans les Lumières au XVIIIe siècle. Mais là, on voit très bien la tension entre, effectivement, un universalisme relativement généreux, c'est-à-dire qu'il y a une équité qui est présente partout, donc chez ces populations africaines, ils ont un sens de l'équité, ils ont donc un sens de la justice. Il s'agit pas du tout d'imposer une colonisation violente et brutale, mais au contraire de les amener vers la liberté, la civilisation et la modernité. Il y a des échos de ce que Diderot écrit, par exemple, dans l'histoire philosophique des deux Indes, ou Rénal, c'est-à-dire ce que certains historiens ont appelé la douce colonisation, un idéal de la douce colonisation, c'est-à-dire d'une colonisation qui n'est pas brutale, qui n'est pas violente, qui n'est pas exercée par la coercition, mais qui est à la fois un intérêt, une curiosité savante pour ces peuples, et en même temps une volonté de les amener vers ce qui, pour les Européens, aussi bien des Lumières que des années 30, enfin en tout cas ceux-là, apparaît comme un évident progrès. Voilà, un évident progrès, et donc il y a une conception comme ça du progrès. Donc il y a cette dimension de générosité, et puis de l'autre côté, il y a évidemment une forme incroyable qui aujourd'hui nous frappe par une condescendance et surtout un sentiment qui n'est absolument pas remis en cause d'une part de supériorité de la civilisation et de la société européenne, et d'une nécessité pour les Européens, ce devoir à la fois de fraterniser, mais surtout de conduire ces peuples vers un sentiment plus haut de la liberté, donc une conception de l'histoire qui doit mener nécessairement en réalité, alors prudemment, en respectant les coutumes locales. On n'est pas sur un discours brutalement assimilationniste comme on peut le trouver dans d'autres courants de la colonisation à cette époque-là, mais on a en tout cas cette idée effectivement d'un sens de l'histoire dont les Européens sont les responsables.
Ce point, l'idée d'une mission, d'un progrès apporté par la colonisation, croient ceux qui en parlent, c'est vraiment là depuis l'origine, parce que j'ai un peu l'impression dans votre travail, ce que vous montrez surtout, nous allons en parler à propos de ce Tahitien qui, à l'issue du voyage de Bougainville, a été amené en France, vous dénoncez surtout une indifférence, en fait, à lui, à sa vision des choses. C'est pas la même chose, l'indifférence, que la mission, le sens de « il va falloir le civiliser », etc. Est-ce que ça n'est pas venu plus tard, peut-être justement avec la Troisième République ?
Non, je pense que c'est... Alors, effectivement, la Troisième République va l'affirmer fortement, mais non, c'est déjà très présent au XVIIIe siècle. On le trouve, je vous dis, on le trouve dans l'histoire philosophique des deux Indes, on le trouve chez Condorcet, par exemple. Condorcet dit ça, et notamment, il écrit au moment de la Révolution, il dit, voilà, la France et les États-Unis ont montré l'exemple de la liberté, puisqu'il y a cet exemple de la liberté, et maintenant, il va falloir la grande question, c'est comment ce modèle de liberté porté par les Européens et les Nord-Américains va pouvoir se développer, se diffuser, se propager. C'est la grande idée, se propager sur le globe. Et il y a une responsabilité de ce point de vue-là des Européens. Donc, c'est présent. L'indifférence, elle est liée à l'indifférence justement d'un individu à l'égard d'un individu et de la spécificité de ces coutumes. La grande différence, peut-être, effectivement, c'est que entre le XVIIIe siècle et le texte qu'on vient d'entendre, ce qui est passé, c'est les débuts de l'ethnographie. Et donc là, le passage, on est dans ces années 30, c'est le moment du développement d'une ethnographie qui est liée à la colonisation, qui est une ethnographie coloniale, mais qui néanmoins cherche véritablement à produire un savoir des autres. Et on a entendu dans le texte, il différencie les différents types de modes de vie, etc. On entend les échos de ces savoirs coloniaux et ethnographiques et anthropologiques, ce qui n'est pas le cas véritablement au XVIIIe siècle. L'anthropologie des Lumières est une anthropologie qu'on pourrait dire plus philosophique, qui est moins portée sur un intérêt effectivement réel pour les pratiques culturelles ou sociales de ces peuples autochtones, mais une manière de les intégrer tout de suite à l'intérieur d'un modèle philosophique.
Thierry Hoquet, qu'est-ce que vous en pensez ? Y a-t-il une continuité des visions depuis les Lumières de décolonisées qu'on trouve encore largement au XXe siècle et sans doute plus tard encore, ou bien êtes-vous attentif aux ruptures, aux variations, au passage, c'est lié. C'est très troublant que vous soyez mis sur ce sujet. Vous êtes un philosophe des sciences, vous avez écrit sur Buffon, sur Linné, etc. Et à un moment donné, vous faites un livre sur l'histoire décoloniale de la philosophie française. Vous traitez aussi de gens qui sont des scientifiques et des philosophes. Comment c'est arrivé?
Okay. C'est très important tout ça. D'abord, je suis philosophe des sciences, mais mon cœur de métier, on va dire, c'est l'histoire naturelle. Donc c'est l'étude et la découverte des entités naturelles telles qu'elles s'est produites, principalement au XVIIe, XVIIIe siècle, dans le sillage des aventures et des explorations et de tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise coloniale. Donc en fait, mon sujet de recherche premier, l'histoire naturelle du siècle des Lumières, il m'a amené naturellement à m'intéresser à la question de la colonisation. Je ne pouvais pas l'éviter, la contourner. Donc ça, c'est le premier point. Et dans cette question, il y a aussi la question de la diversité humaine, évidemment, qui se pose là au premier plan, parce qu'au XVIIIe siècle, ce qui se passe, c'est pas seulement qu'on rencontre, découvre, décrit de nouveaux peuples, c'est aussi qu'on rencontre aussi des espèces animales nouvelles et qu'arrivent en Europe des spécimens de grands singes qui sont absolument inconnus et qui modifient notre conception de la possible gradation au sein de la nature. Avant, on connaissait juste des sortes de babouins très éloignés de nous, et apparaissent des pongos, des jokos, ce qu'on appellera plus tard des gorilles, des chimpanzés, des orangs-outans, qui sont des irruptions absolument inédites. On découvre aussi, en tout cas c'est une des grandes thématiques du XVIIIe siècle, les enfants sauvages, c'est-à-dire le fait qu'en dehors de l'éducation en société, un être humain ne vaut rien, c'est-à-dire marche à quatre pattes, ne sait pas parler et ne supporte pas la présence des autres. Donc on a toute cette variation sur le matériau anthropologique qui est véritablement bouleversante et qui constitue l'expérience fondamentale pour moi du XVIIIe siècle. Donc tout ça, c'est très important. Le deuxième point, c'est histoire décoloniale. Je ne fais pas de l'histoire coloniale ou décoloniale, je ne suis pas un historien, mais je fais une histoire de la philosophie, c'est-à-dire ce qui m'a paru important, c'était de montrer comment toutes ces problématiques qui paraissent complètement extérieures à la réflexion philosophique sur l'être, le néant, la liberté, la conscience, le sujet et j'en passe, cette histoire de la philosophie, elle était aussi travaillée par toute cette histoire coloniale qui ne cesse, je ne dirais même pas d'affleurer, mais qui en fait constitue un matériau de réflexion pour de nombreux penseurs. Et ça, il me semblait important de le souligner. Ensuite, vous m'interrogez sur les ruptures.
Oui.
Moi, je pense qu'il y a des ruptures.
Ah.
Je pense en particulier que au XVIIIe siècle, et c'est en ce sens que je disais, il n'y a pas d'empire coloniaux au XVIIIe siècle, il n'y a pas d'idéologie coloniale en fait. C'est peut-être ça que j'aurais dû dire plus précisément. Au sens où il ne s'agit pas, quand on se rend dans un pays, de faire de tous les habitants de bons petits Français. Il y a bien sûr, dans certaines pratiques coloniales, celles des Espagnols et celles des Français dans une certaine mesure, des efforts pour convertir à la religion catholique. Mais il n'y a pas de volonté de transformer les autres en nous. Il ne me semble pas que ça soit déterminant dans la manière dont fonctionnent les colonies, en fait, qui sont des colonies, on pourrait dire capitalistes, productivistes, mais qui ne sont pas des entreprises de transformation de la subjectivité de l'autre. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la subjectivité coloniale et la subjectivité, on va dire, métropolitaine, si je peux utiliser ce mot-là, elles sont dans des contextes différents, elles fonctionnent différemment. Il y a un très beau livre, un beau roman de Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, qui montre bien ça, c'est-à-dire ce sont des réalités éloignées. Et donc, de la métropole, on ne comprend pas ce qui se passe dans les colonies. Buffon, par exemple, dénonce la manière dont l'appât du gain déforme, dénature les Européens qui se rendent là-bas et qui cèdent à des actes inhumains. À l'inverse, depuis les colonies, on ne comprend pas la métropole qui semble un monde cruel, insensible, etc. Donc, il existe ces différences-là qui sont très importantes. Je parle de rupture aussi parce qu'au XVIIIe siècle, une colonie, et en particulier une colonie réussie, c'est une implantation d'Européens réussis. C'est ce qui se passe de manière exemplaire dans les 13 colonies britanniques en Amérique du Nord. C'est ça. Et donc, en fait, on comprend, en particulier avec les luttes d'émancipation des Américains, le fait qu'une colonie, si elle réussit, son devenir naturel, c'est de s'émanciper par rapport à la métropole. Donc, une colonie, c'est un investissement, en fait, mais parfois un investissement en pure perte, puisque, en fait, cette colonie, à un moment, rompt les liens avec, entre guillemets, la mère patrie.
Bon, ce que je propose, c'est qu'on ne va pas uniquement faire toute... Cette histoire est très longue, il y a des différences. Nous avons un historien, un philosophe, il y a peut-être des points sur lesquels vous n'êtes pas... Vous décrivez verriez peut-être pas les choses de la même manière, Antoine Lilti. Ce que je voudrais, c'est qu'on revienne aux Lumières maintenant, après ce préambule nécessaire, hein, à mon avis. Le problème des Lumières du XVIIIe siècle, c'est qu'ils sont tous très différents malgré tout, et on a cessé de le dire dans cette série. Et donc maintenant, j'aurais vous faire entendre deux textes qui m'apparaissent a priori totalement différents. Un texte de l'abbé Rénal, donc Guillaume Thomas Rénal, ancien jésuite, en 1770, qui va nous parler du fait que c'est formidable, la colonisation, mot qui n'est certes pas employé, au sens où ça va créer des échanges, ça va permettre à l'espèce humaine d'échanger largement. Bon, y a cette idée-là. Et puis, il y a un texte de Voltaire, 11 ans plus tôt, qui décrit la situation d'un noir au Suriname, donc partie est de l'Amérique centrale et Caraïbes, des Caraïbes, qui est un texte affreux, horrible, une dénonciation, c'est presque insoutenable. Comment on peut traiter ces deux textes avec les mêmes concepts? Alors écoutez donc successivement Rénal et Voltaire.
Il n'y a point eu d'événement aussi intéressant pour l'espèce humaine en général, et pour les peuples de l'Europe en particulier, que la découverte du Nouveau Monde et le passage aux Indes par le Cap de Bonne-Espérance. Alors a commencé une révolution dans le commerce, dans la puissance des nations, dans les mœurs, l'industrie et le gouvernement de tous les peuples. C'est à ce moment que les hommes des contrées les plus éloignées se sont rapprochés par de nouveaux rapports et de nouveaux besoins. Les productions des climats placés sous l'équateur se consomment dans les climats voisins du pôle. L'industrie du Nord est transportée au Sud. Les étoffes de l'Orient sont devenues le luxe des Occidentaux. Et partout, les hommes ont fait un échange mutuel de leurs opinions, de leurs lois, de leurs usages, de leurs maladies, de leurs remèdes, de leurs vertus et de leurs vices. Approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire d'un caleçon de toile bleue. Il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite.
« Hé, mon Dieu !»
lui dit Candide en hollandais.
« Que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois ?»«
J'attends mon maître, M. Van der Dendur, le fameux négociant. »«
Est-ce M. Van der Dendur qui t'a traité ainsi ?»«
Oui, monsieur. » C'est l'usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement deux fois l'année. Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans les deux cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Cependant, lorsque ma mère me vendit 10 écus patagons sur la côte de Guinée, elle me disait
« Mon cher enfant, bénis nos fétiches. Adore-les toujours. » Ils te feront vivre heureux. Tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les Blancs, et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère.
Hélas, je ne sais pas si j'ai fait leur fortune, mais ils n'ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes et les perroquets sont 1000 fois moins malheureux que nous. Les fétiches hollandais qui m'ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d'Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas généalogiste, mais si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus de Germain, or vous m'avouerez qu'on ne peut pas en user avec ses parents d'une manière plus horrible.
Notre réalisateur Nicolas Berger lisait ces textes respectifs de Rénal et de Voltaire, et vous entendiez aussi la voix d'Anaïs Isbert de France Culture, dans le deuxième texte, celui de Voltaire, extrait de Candide, où Candide et Cacambo rencontrent un esclave noir à la sortie de l'Eldorado. C'est le fameux passage intitulé, chapitre 19, « Le nègre de Suriname ». Eh bien, je dois vous dire, chers invités, que je pense que ces deux textes n'ont rien à voir. Néanmoins, correspondent-ils à quelque chose comme les Lumières et leur ambivalence à l'égard des non-occidentaux et des colonisés, Antoine Lilti?
Alors j'ai envie d'être un peu provocateur, chère Géraldine, parce que je pense qu'en fait ces deux textes ont beaucoup à voir.
Très bien, j'adore ça, merci, ouais. Vous jouez le jeu, c'est parfait.
Non mais pourquoi ils ont beaucoup à voir? Alors évidemment, ce sont deux textes de nature différente. D'un côté on a l'introduction d'une histoire philosophique, d'un texte historique, et de l'autre côté on a un conte qui est aussi une forme de pamphlet. Mais on trouverait chez Voltaire, par exemple, dans l'essai sur les mœurs ou dans ses remarques sur l'histoire, des textes qui sont exactement les mêmes que celui de Rénal. Rénal, au fond, là, reprend Comante, ce qui est devenu un lieu commun et que Voltaire a écrit quelques années auparavant. Et inversement, on trouve dans la suite du texte de Rénal des passages extrêmement violents contre l'esclavage, même encore plus violents que le texte de Voltaire. Donc, au fond, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces deux textes appartiennent exactement au même univers intellectuel et mental. Et ils disent deux choses qui sont au fond les deux faces de cette ambivalence du rapport des Lumières à la colonisation, pour aller vite. D'une part, un constat historique qu'on trouve dans le texte de Rénal. Les choses ont totalement changé depuis le XVIe siècle, depuis la découverte de l'Amérique, et se sont accélérées au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de penser l'Europe, le monde, et tous les éléments que donnait Thierry Hoquet tout à l'heure, ce qui justifie totalement le fait de faire aujourd'hui une histoire de la philosophie qui soit à la fois coloniale et décoloniale. C'est-à-dire qu'il y a cette conscience, cette prise de conscience réflexive au XVIIIe siècle que l'Europe ne peut pas se penser par elle-même parce qu'il y a eu une révolution dans le commerce qui fait que tous les éléments du monde sont désormais liés. Ils sont liés économiquement, ils sont liés politiquement et ils sont liés culturellement. Et Voltaire, dans ce chapitre, il en tire les conséquences. Il en tire les conséquences, c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe, c'est-à-dire que ce qui se passe aux colonies concerne les Européens, à la fois les concerne moralement et politiquement, et est une conséquence de ce que Rénal décrit, c'est-à-dire, oui, en fait, le fait que toutes les parties du monde, désormais, sont liées par cette révolution dans le commerce. Alors, évidemment, Rénal l'a écrit, et surtout cette introduction, c'est un texte qui vise justement à réformer les colonies, enfin l'Empire français, après la guerre de 7 ans. Voltaire l'a écrit pour alerter l'opinion, et d'ailleurs il y a pas mal de choses qu'on pourrait dire sur ce texte, mais on va sans doute y revenir, puis Thierry okay, aura des choses à dire, mais ce qui est très frappant, c'est que ce chapitre en fait a été rajouté par Voltaire à la toute fin, au moment de publier. On a le manuscrit quelques mois avant la publication, et c'est en ayant lu Helvétius, de l'esprit d'Helvétius, il y a une note qui a à peu près la même idée, il a repris ce thème. Donc au fond, il introduit l'esclave dans ce texte qui est à la fois très fort et en même temps un peu ambigu, hein, et problématique sur certains éléments. On va y revenir. Il l'introduit comme un des éléments de cette litanie des horreurs du monde. Et donc, le monde, il est à la fois... Et en fait, aujourd'hui, ça nous parle, je crois, beaucoup. C'est-à-dire que le monde est à la fois totalement connecté par le commerce, oui, connecté par l'ensemble d'informations. La puissance des nations désormais doit être pensée dans un monde global, c'est ce que dit Rénal. Mais du coup, ce monde global, connecté, il est aussi un monde d'horreur, d'absurdité, de violence. Et les philosophes des Lumières doivent, au fond, en permanence, jouer sur ces deux éléments.
Vous voulez dire qu'ils sont tous indignés et en même temps, aucun ne saurait remettre en question fondamentalement cette connexion par le commerce qui leur plaît bien et qu'ils utilisent eux-mêmes.
Oui, ça c'est certain. Ce qui est toujours très frappant, c'est qu'on peut toujours faire jouer un texte contre un autre.
Oui.
Mais évidemment, il y a d'une part ce constat, ça c'est une réalité. En fait, on ne reviendra pas en arrière, au fond. Il y a cette idée très forte, hein, qu'il y a eu une révolution dans le commerce, au sens commerce du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que c'est les deux sens, c'est les relations entre les gens, et puis c'est évidemment le commerce économique, et qu'en même temps, ça entraîne toute une série de catastrophes. Alors, il y en a qui ont une vision très optimiste, hein, le doux commerce de Montesquieu, et encore il est moins optimiste que ça, mais il y a des gens qui ont une vision très optimiste de ces effets positifs du commerce qui vont à terme finir par adoucir les choses. D'autres qu'en auront une vision plus critique, mais en tout cas, cette idée, cette articulation entre une ouverture au monde qui est aussi quelque chose de positif, parce qu'elle sort l'Europe de la chrétienté et du pur rapport de soi à soi qu'était l'Europe chrétienne. Voltaire, quand il écrit « L'essai sur les mœurs », hein, il dit « Mais moi, je vais faire une histoire universelle, mais je ne vais pas la faire comme faisait Bossuet au XVIIe siècle, uniquement une histoire de l'Europe chrétienne. Je vais faire une histoire, je vais commencer par l'Inde, je vais commencer par la Chine. » Et Voltaire était fasciné, comme on le sait, par la civilisation chinoise, par exemple. Et donc, il y a une véritable ouverture, il y a une véritable curiosité. Donc, il y a une dimension positive de cette révolution, de cette globalité du monde. Et en même temps, il y a cette prise de conscience d'une responsabilité à l'égard de l'ensemble des horreurs qui ont lieu sur la planète.
Thierry Hoquet, je vous laisse réagir à tout ce qui
merci.
Vient d'être dit.
Oui, bon, c'est... En fait, je crois que la question est, la découverte du nouveau monde a-t-elle été ou non une bonne chose? C'est la question que le XVIIIe siècle ne cesse de se reposer. Parce que, bien sûr, il y a une certaine admiration pour la manière dont les conquistadors ont subverti les mondes amérindiens. Mais en même temps, on se demande, plus le siècle avance, plus on se demande si finalement ça a été une bonne chose pour les Espagnols eux-mêmes, s'ils ne s'y sont pas perdus, finalement peut-être appauvris en apprenant à vivre de la prédation de métaux précieux plutôt que par la production de nouvelles ressources et de nouveaux produits. Donc c'est un problème qui est économique, c'est un problème qui est humain, parce que en fait, on est conscient également, et on est tout à fait lucide, je pense, au XVIIIe siècle, sur les génocides, même si on les appelle pas comme ça, qui ont eu lieu, et donc sur les peuples qui ont été exterminés. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait le coût de sang et qui a été versé, en fait. Donc, la découverte du Nouveau Monde a-t-elle été ou non une bonne chose? C'est une question à laquelle tout le monde essaye de répondre.
Ils répondent tous oui, malgré les choses qui nous indignent.
Bah,
c'est ça que vous voulez dire?
Voltaire, il vous répond d'un côté, en tout cas dans le texte que vous nous avez lu, on est à gagner du sucre. Donc c'est doux le sucre, mais à ce prix-là, est-ce qu'on en veut toujours? Je ne suis pas sûr. Est-ce que vraiment, en fait, il y a d'autres textes où Voltaire est vraiment d'une ironie redoutable. Il dit, on y a gagné la cochenille et le quinquennat. Donc d'un côté, quelque chose qui permet de teindre, et de l'autre, un remède éventuel contre les fièvres. Donc, finalement, à chaque fois, d'ailleurs, il s'agit de produits naturels. On ne parle pas des métaux précieux. Là, on parle de... Voilà, on a découvert des nouvelles espèces qui nous aident dans certaines pratiques médicales, tinctoriales, etc., gastronomiques. Mais qu'est-ce que ça vaut, tout ça, finalement? Et il y a une vraie interrogation sur le sens profond de cet événement de l'histoire. Alors après, effectivement, il est irréversible. Il s'agit d'une révolution.
C'est un progrès malgré tout, ils le pensent tous?
Je ne suis pas sûr, en fait.
Ah,
là,
en
tout
fait,
cas,
vous prenez très au sérieux, par exemple, l'indignation de Voltaire. Tout à l'heure, il a été dit que Voltaire, au fond, a par ailleurs des textes très racistes. Là, ce texte, c'est une indignation terrible. Voilà le prix de notre sucre. Un homme complètement brisé... mutilé, etc. Est-ce que vous prenez au sérieux, vous pensez que des gens comme Voltaire, à cause de ce prix exorbitant du sucre, si je me permets de rester dans le point qu'il soulève, eh bien, nous dit, finalement, on aurait peut-être mieux fait pas avoir le sucre.
Je pense que la question est présente. Après, on peut faire beaucoup de reproches à Voltaire. Même sur ce texte-là, on peut dire « Ah, sa mère l'a vendu ». Bon, c'est pas comme ça que les esclaves sont faits à l'époque. L'enslavement, il se produit principalement par la capture, en fait. Donc, c'est pas les mères qui vendent leurs enfants bénévolement pour s'enrichir. Donc, ça, c'est faux. En plus, il critique pas l'esclavage en tant que tel. Il critique juste les méfaits liés à l'esclavage. Peut-être qu'un esclavage doux serait possible. Mais ça, c'est très intéressant aussi sur le changement de mentalité. Les premières critiques de l'esclavage, elles se font pas au nom des droits de l'homme, elles se font pas au nom de l'humanisme. Les premières critiques de l'esclavage, elles se font au nom de l'intérêt économique ou non qu'il y a à avoir ce système. Pour beaucoup de gens, il n'y a pas de problème moral au XVIIIe siècle à ce qu'il y ait des esclaves, il y en a toujours eu. De même qu'il y a des galériens et ça ne pose pas de problème. Voilà, c'est des certains modes d'emprisonnement, certains systèmes de justice qui peuvent réduire certains êtres humains, certains individus à l'esclavage. C'est le commun dans le monde entier, il n'y a pas de problème moral à ça, les jésuites en discutent, etc. En revanche, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des crimes qui sont faits. Les crimes, ils sont faits en amont de l'esclavage. Ça, c'est toutes les problématiques de prédation où on capture des gens contre leur volonté. Et donc ça, c'est coupable, et ça, tout le monde le dit. Et par ailleurs, ensuite, là, ce que Voltaire souligne, c'est le fait que, finalement, au fond, c'est une critique aussi du Code Noir, au sens où le Code Noir de 1685, par lequel Louis XIV entendait, remettre un peu d'ordre dans les pratiques coloniales, ça ne fonctionne pas. Alors là, il faut noter aussi que c'est une colonie hollandaise, quand même. C'est légèrement différent.
Ouais. Donc, je vais vous laisser réagir, vous le souhaitez, Antoine Lichty, vous m'avez fait signe à tout ce qui vient d'être dit, mais je préfère vous prévenir, je voudrais que vous gardiez du temps à vous-même, parce que je voudrais bien qu'en fin d'émission, on parle d'Diderot et du supplément au voyage de Bougainville sur lequel vous avez fait un livre. Donc c'est à vous de vous modérer pour que vous gardiez le temps pour le reste.
Alors très très court du coup, mais effectivement pour dire que je pense que l'indignation de Voltaire est tout à fait sincère. Après, Voltaire a des indignations multiples, hein, donc c'est une indignation pas une autre, et il y reviendra pas tant que ça. Mais par contre, juste le point que je voulais souligner, c'est que Voltaire lui-même évolue énormément. C'est-à-dire que au début de sa carrière, dans sa jeunesse, il écrit par exemple ce poème Le Mondain où il dit le paradis terrestre est où je suis, où il fait l'apologie du commerce colonial. Et là, il dit que le commerce colonial c'est absolument formidable. Et puis progressivement, notamment dans les années 1750, au moment où il travaille sur la colonisation par les Espagnols de l'Amérique, il prend conscience de ces horreurs. Donc, il faut bien voir qu'il n'y a pas des auteurs qui seraient colonialistes et d'autres qui seraient anticoloniaux. En fait, tous, ils sont travaillés par cette question. C'est très loin. Ça ne leur est pas naturel. Et quand ils pensent à l'esclavage, en fait, ils ne pensent pas tellement à l'esclavage colonial. Fondamentalement, ils pensent à l'esclavage politique. C'est ça, leur culture. Chez Rousseau, quand Rousseau parle de l'esclavage, il pense à l'esclavage politique, à la servitude politique. Et en même temps, progressivement, ils prennent conscience de ça. Il y a des indignations qui viennent et qui vont conduire beaucoup de philosophes, à partir des années 70-80, à mener des campagnes abolitionnistes. Donc, c'est ces contradictions qui sont au cœur même des œuvres et des trajectoires intellectuelles des philosophes.
Alors, gardez la parole, parce que vous avez fait un livre extrêmement intéressant, dont vous dites que l'origine était vraiment une question personnelle qui vous a travaillé. Diderot a écrit un texte qui s'appelle « Supplément au voyage de Bougainville », voyage avec une majuscule, puisqu'en fait, il commente exactement où il construit quelque chose. Vous nous expliquerez d'ailleurs comment il faut caractériser ce texte. Il commente le voyage autour du monde, publié par Louis-Antoine de Bougainville après son voyage autour du monde. Il était capitaine de 1766 à 1769, d'un vaste équipage qui a fait le tour du monde. Et Diderot commente cela en 1772. Alors, la publication, il y a eu un morceau en revue, c'est ça? Et puis ensuite...
Ça. Ça sera publié, en fait, vraiment publié sous la Révolution.
Sous la Révolution, d'accord. Et il y a des passages très, très dénonciateurs de l'Occident. Notamment, Diderot met en scène un vieillard. On est à Tahiti, n'est-ce pas?
Oui, absolument.
Voilà. Ce vieillard qui dit, mais il dit au revoir aux Européens, qu'ils repartent, ce sont des brigands, et s'ils revenaient, ce serait vraiment la fin pour nous. Il le dit à son propre peuple, un jour, vous servirez sous eux, et finalement, vous serez à terme aussi corrompus, aussi vils, aussi malheureux qu'eux. Et pourtant, ce texte pose problème. Je vous laisse expliquer.
Oui, alors... Donc Diderot est fasciné par ce voyage de Bougainville et comme beaucoup, il est fasciné par un épisode très particulier qui est l'escale de 10 jours que Bougainville a fait à Tahiti, où il dit avoir découvert une sorte de paradis terrestre qu'il appelle la Nouvelle Cythère, une île où les gens vivent selon la nature, dans un état de bonheur permanent. Et évidemment, ça fascine Diderot. Et donc ce texte, vous venez de le rappeler, moi je l'ai beaucoup utilisé très souvent pour dire, bah, vous voyez les lumières, il n'y a pas que, en tout cas elles ne sont pas toujours coloniales, et il y a ce texte de Diderot qui non seulement est anticolonialiste, mais va plus loin, il remet en cause cette arrogance européenne, puisqu'il dit, le vieillard tahitien dit, nous n'avons pas besoin de tes inutiles lumières. Ça, c'est quand même intéressant.
Oui, intéressant.
Il dit ça à Bougainville. Bon. Donc, on a cette dimension-là. Mais en même temps, Bougainville a ramené à Paris un tahitien qui s'appelle Aotourou, et Diderot, au fond, alors le cite, l'évoque, mais il s'en débarrasse en quelques phrases en disant « J'ai vu ce Aotourou », enfin, en tout cas, le personnage qui parle dans le dialogue dit « J'ai vu Aotourou », mais au fond, d'une part, il n'a pas vraiment compris ce qui lui arrivait, il a été transporté, hein, il n'a pas voyagé, il a été transporté, donc il est passif, c'est une victime, mais une victime passive qui n'avait pas les outils intellectuels pour comprendre ce qui lui arrivait, qui n'a cessé de soupirer après son pays. En fait, c'est un enfant mélancolique, Aotourou. Mm-hmm. Et en faisant l'enquête, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. En
fait, Aotourou... Alors, vous avez fait l'enquête.
Oui,
j'ai fait l'enquête. On peut retrouver.
On retrouve parce qu'on
tout,
a tous
quoi.
Les jours. Non, pas tout, malheureusement. Ça, j'aimerais bien, mais tout, non. On retrouve peu de choses. Mais le peu de choses qu'on retrouve permet effectivement d'enquêter à la fois sur le fait que c'est vraiment Aotourou qui a voulu s'embarquer. Il s'est embarqué presque de force. Il voulait venir. Il a eu beaucoup d'échanges avec Bougainville sur la réalité de la société tahitienne. Et ensuite, il a passé un an à Paris. Mais au fond, Diderot ne s'intéresse pas à Aotourou parce qu'il ne s'intéresse pas véritablement à la société tahitienne. Elle lui sert d'outil pour produire une fiction, une utopie philosophique.
La liberté des mœurs, le soleil. Enfin, Tahiti, c'est extraordinaire.
Oui, alors c'est surtout, oui, c'est une société qui serait entièrement fondée sur ce qu'il appelle le code de la nature, ce qui lui permet de dénoncer l'hypocrisie morale de la société occidentale, chrétienne, etc., et notamment avec cette question de la liberté sexuelle, puisque c'est une société, la société qu'imagine Diderot, est une société entièrement fondée sur la liberté sexuelle et sur un modèle populationniste. La sexualité est toujours bien parce qu'il faut faire des enfants, bon, pour aller très vite. Mais il y a ce modèle. Mais en tout cas, ce que je trouve très intéressant, c'est que on a, même dans un texte d'un des auteurs qui est sans doute le plus autocritique de l'Europe, de son arrogance, de son colonialisme, on a néanmoins quelque chose qui résiste, qui est une forme de ce que j'appellerais en fait le paternalisme des Lumières. C'est-à-dire, au fond, et Diderot le dit, même dans cette rencontre, dans ce moment de rencontre entre Européens et Polynésiens, c'est quand même les Européens seulement qui ont la possibilité de penser ce qu'il est en train de se passer. Il a dans un autre texte, il dit, c'est l'ignorance des sauvages qui a éclairé les peuples policés. Et donc, cette rencontre n'est pas un échange. Diderot ne s'intéresse pas à l'expérience polynésienne. Il s'intéresse à la façon dont ça lui permet de penser contre l'Europe, contre lui-même, contre les hypocrisies de la société européenne. Mais il ne fait pas d'Aotourou un interlocuteur. Il produit des interlocuteurs qui sont des fictions philosophiques.
Vous avez lu le livre d'Antoine Lilti, Thierry Oquet.
Oui, j'ai lu, et donc j'ai lu le supplément de Voyage de Bougainville. J'ai lu le supplément au supplément, parce que c'est comme ça qu'il se présente. Il me semble que ça pose un problème très intéressant, qui est celui de savoir comment on écrit une histoire sans matériaux archivistiques. En gros, hein, je résume, en tout cas, c'est comme ça que je vous ai lu.
Oui, il y a quand même pas mal de matériaux.
L'histoire s'appuie sur des archives, sur des documents. Et qu'est-ce qu'on fait quand on en a pas ou quand on en a peu? Or, c'est ça le problème, je pense, autour de la figure d'Aotourou, c'est cette figure de quelqu'un, qui, non seulement bon, qui avait manifestement ou peut-être des difficultés à s'exprimer en français, on peut le comprendre, hein. Même si on a, et vous le montrez très bien, des preuves, des mots de vocabulaire que Bougainville avait appris du tahitien, etc. Donc, il y avait ces échanges linguistiques. Dans quelle langue se faisaient les conversations? Ça, c'est une question passionnante. Mais donc, comment est-ce qu'on écrit cette histoire? On peut la fictionner, c'est ce que font certains historiens aujourd'hui, c'est pas ce que fait Antoine Lilti. C'est sans doute ce qu'a fait Diderot. Mais en fait, ce qui est très frappant, en tout cas ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est que Aotourou, lui, n'a jamais laissé de traces écrites de ce voyage. En fait, on n'a pas de journal d'Aotourou, ni dans sa langue, ni dans une autre langue, ni... Voilà. Donc on a... Ça, c'est très intéressant parce que moi, je suis un philosophe au sens où je travaille sur des textes, en fait. Mmh. Hein, la culture orale en philosophie, elle est pas très présente. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on travaille sur ces textes et quand il n'y a pas de texte? Donc, on a quelques textes. On a le texte de Diderot. C'est un peu tout ce qu'on a en philosophie, ce texte de Diderot. Donc, c'est vrai que du coup, il est investi d'une sorte de valeur symbolique et émotionnelle qui est très forte. Alors, Diderot, il est un peu, effectivement, condescendant. Et puis surtout, c'est pas un ethnologue, je crois qu'il faut en convenir. Il n'a pas cette culture ethnographique. Il utilise ces peuples lointains pour faire avancer ses thèses philosophiques, qui sont d'abord des thèses de critique de la société dans laquelle il vit et à laquelle il s'adresse principalement. En particulier les thèses sur le mariage, par exemple, la polygamie, etc., qui ont à la fois cet aspect libertin, mais qui ont aussi un intérêt démographique et politique. Donc il produit des fictions, et dans ces fictions, la question du langage, elle est déterminante. Or, Autoroute n'a pas ces éléments, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait en histoire, mais aussi qu'est-ce qu'on fait du coup nous en philosophie, sinon travailler à partir des quelques traces écrites qui sont à notre disposition.
Alors pour l'histoire complète de Autoroute, je renvoie donc à votre livre Antoine Lilti, L'illusion d'un monde commun, Tahiti et la découverte de l'Europe, chez Flammarion, ça vient de sortir, ou ça fait très peu de temps en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux, Antoine Lilti, Thierry Hoquet, les références de vos travaux sont sur notre site. Voici maintenant la chronique du jeudi, le fil philo, en ce moment c'est Laurence de Villers qui la propose, et aujourd'hui sa question c'est comment supporter son supérieur hiérarchique. La solution de Blaise Pascal, écoutez.
Le fil philo. Il a tort, vous avez raison, mais voilà, c'est lui le chef. De vous deux, ce n'est pas elle la plus compétente, mais elle est votre supérieure hiérarchique. Comment éviter à la fois l'hypocrisie et le conflit? Comment rester digne quand on obéit? Blaise Pascal a pour vous une solution à la fois honorable et parfaitement subversive. Il vous arrive peut-être, même souvent, d'avoir envie de dire à celui ou celle qui vous dirige ces quatre vérités, même et surtout celles qui blessent. Mais la vie professionnelle et la vie sociale en général sont faites de concessions, voire d'hypocrisie, de courbettes et de flatteries. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire en société. Cela vous désole, vous indigne, vous attriste? Vous ne pensez pas pouvoir survivre à ce jeu sans perdre votre âme? Blaise Pascal, philosophe du XVIIe siècle contemporain de Descartes, a la solution. Elle consiste à ne rien dire, mais à n'en penser pas moins, à pratiquer une forme de dissociation intérieure. Il faut pour cela cultiver une pensée de derrière la tête, ou double pensée, pour reprendre ses mots. Cela consiste à ne rien céder sur la vérité, c'est bien vous qui avez raison, c'est bien vrai qu'elle est incompétente, à ne rien céder sur la vérité donc, mais à respecter l'ordre hiérarchique en faisant la différence entre le mérite personnel et le statut social. Car selon Pascal, il existe des grandeurs d'établissement et des grandeurs naturelles. C'est ce qu'il soutient dans ses pensées, son grand ouvrage que la mort l'a empêché de terminer, comme dans son autre ouvrage, ses discours sur la condition des grands, c'est-à-dire les puissants de ce monde. Que les uns soient rois ou en démocratie, directeurs, chefs, supérieurs, tandis que d'autres sont valets, salariés, employés, subordonnés, cela ne ressort ni de leur nature, ni de leur mérite. C'est le fruit du hasard. La valeur que l'on attribue aux uns et que l'on refuse aux autres ne dépend que de conventions sociales. Rien n'est fondé, tout est décrété. Ce sont des grandeurs d'établissement et non des grandeurs naturelles fondées sur les mérites ou qualités réelles de la personne. Ce n'est pas parce que vous êtes le plus intelligent que vous êtes roi, mais c'est parce que vous êtes roi que l'on a tendance à croire que vous êtes aussi le plus intelligent. Et c'est une erreur d'appréciation. Aux grandeurs d'établissement, soutient Pascal, il ne faut devoir qu'un respect d'établissement, car les grandeurs ne sont dues qu'au hasard, à la chance, à une élection ou à un piston. Ce serait toutefois assez bête et inutile de ne pas respecter la hiérarchie sociale, parce que c'est cela la vie en société. Toutefois, l'estime, vous ne la devez qu'aux grandeurs réelles. Le courage, l'intelligence, la bonté, la sincérité. En un mot, plier le genou, peut-être, mais ne jamais plier l'esprit. Vous pouvez donc en apparence être respectueux de votre supérieur hiérarchique, mais n'avoir pour lui aucune estime. C'est votre pensée de derrière la tête, votre liberté de penser. Et si jamais ce même supérieur venait à vous demander d'avoir pour lui de l'estime, alors qu'il n'est qu'un lâche et un idiot, vous seriez en droit de lui répondre, avec Pascal, « Vous êtes injuste de me demander cette estime, et assurément, vous n'y réussirez pas, fussiez-vous le plus grand prince du monde. »
Merci Laurence de Villers. Nos émissions peuvent être écoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Ludovic Auger. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Nassim El-Kabli, Corinne Amar, Victoire Mellet. Vous êtes sur France Culture, vive la curiosité.